Radio Kapi. Oh, Kapi. En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Le Parlement d'enfants salue le calme qui règne en ce moment à Beni. Le président de cette structure appelle la police et les FRDC à consentir les mêmes efforts pour sécuriser les autres agglomérations où des civils sont la cible d'attaque. Le budget de 2022 défendu hier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre est de plus de 20 milliards de francs congolais. Ce budget connaît une croissance de plus de 3% par rapport à celui de 2021. Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile de Beni au Nord Kivu. Jean-Paul Kapitula parle de l'afflux de nombreux déplacés venus de l'Ituri, d'où ils fuient l'insécurité. Cette situation pose le problème de prise en charge. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nociala. Au Nord Kivu, le Parlement d'enfants se réjouit du calme qui règne actuellement dans la ville de Beni grâce aux efforts de la police et de l'armée. Le président de cette structure souhaite que les mêmes efforts soient consentis dans les autres agglomérations du dit territoire où des civils sont la cible d'attaque. À Beni, Marc Marofimo.
C'est depuis plus d'un mois maintenant que la ville de Beni connaît une certaine accalmie. Les attaques armées n'y sont plus enregistrées comme auparavant. Du côté de la police et de l'armée, on fait savoir que des patrouilles ont été intensifiées. Plusieurs bouclages ont également été organisés dans les communes où les cas de sécurité étaient répétitifs. Le président du Parlement d'Afan dans la province du Nord Kivu demande à l'armée d'intensifier ses efforts dans les autres agglomérations du territoire où les cas de sécurité ne cessent de s'enregistrer. Jules Maté.
Nous voudrions que cette accalmie progresse partout, à part la ville de Beni, que ça atteint même le village dans le territoire de Beni, parce que maintenant c'est un territoire où il y a la cadence de désastre de la guerre et les pertes à vies humaines, c'est déplorable. À la jeunesse, nous disons que nous devons collaborer, mais aussi alerter lorsqu'on voit les suspects. Mais aussi, nous devons orienter notre armée là où nous avons vu des suspects. L'armée doit aussi capitaliser les alertes de la jeunesse. C'est aussi un aspect que nous allons tirer du mariage civil.
Jules Maté appelle les jeunes à ne pas céder aux manipulations et à accompagner les actions prises dans le cadre de l'état de siège. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
On reste à Beni, dans le Nord Kivu, où l'unique centre de santé de Kisunga a été incendié lors de la dernière attaque de présumés rebelles ougandais, l'EDF, à Bachou. En conséquence, selon le rapporteur de la société civile de cette chefferie, 8000 personnes ne peuvent plus accéder aux soins. Il a été joint par Marc Marofimo.
C'est déjà un grave problème qui s'observe dans la zone de Kisunga. Au moins 8000 personnes qui n'ont plus où se faire soigner. Ce qui s'est passé hier, c'était vraiment compliqué. À partir de cette même nuit, pendant que l'attaque s'est déroulée, vous voyez, au moins 3 femmes ont été obligées de donner naissance à Prousse. Elles n'avaient plus où donner naissance comme leur maternité était déjà incendiée. C'est vraiment compliqué. Mais ce que nous déplorons, c'est de se rendre compte que la localité de Kisunga ne dispose d'aucun dispositif sécuritaire. Nous n'avons pas ni militaire ni police. Donc, les habitants sont là, ils sont là seuls. Donc, ils sont exposés. Peut-être ça va interpeller les autorités militaires pour qu'elles puissent voir comment faire et peut-être pour essayer d'implanter une position militaire pour essayer de protéger la population.
Tongo Kamala plaide pour la sécurisation des Kisunga étant donné que l'unique position militaire des FARDC dans la région se trouve à 5 km de cette localité. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a défendu hier à l'Assemblée nationale un budget de plus de 20 milliards de francs congolais, l'équivalent de 10 milliards de dollars américains pour l'exercice 2022. Ce budget connaît une croissance de plus de 3% par rapport à 2021. Les priorités de ce budget portent notamment sur l'amélioration du social, le rétablissement de la paix dans l'est du pays, le recensement général de la population, l'éducation, le financement des élections, la gratuité de l'enseignement fondamental, mais aussi la construction des infrastructures. Les comptes rendus avec vous, Michel Kefinangoy.
Dans sa présentation, le Premier ministre entrevoit une croissance économique évaluée à 3,6% en 2022. Ce budget est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 10 milliards de dollars, ce qui représente un taux d'accroissement de 41,8% par rapport au budget de l'exercice 2021. Il est composé du budget général, du budget annexe et comptes spéciaux, a précisé Samalou Kondé. Il s'appuie essentiellement sur les recettes des douanes et accises, de la mise en œuvre effective du code minier, ainsi que de l'implication du gouvernement pour la perception de l'IPER auprès des agents de l'État. À en croire le Premier ministre, cette croissance budgétaire va servir notamment au recrutement et à la mise à la retraite au sein de l'administration publique, de l'armée, de la police, ainsi qu'à la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire. Cependant, beaucoup de députés dénoncent les caractères budgétivores des institutions politiques du pays, dont la présidence, le gouvernement et les parlements, qui prennent la part du lion de ces budgets au détriment de la défense des provinces et des secteurs sociaux de base.
Dans le Kwilu, les agents de l'inspection provinciale de la territoriale dénoncent le non-paiement de leur prime de carrière par l'inspecteur général de ces corps. Ils sollicitent par conséquent l'implication du ministre des tutelles pour une solution à leurs préoccupations. Un extrait de leur déclaration est lu par Jean Bosco Mbundimbu, des propos recueillis par Irène Boma.
À son excellence, monsieur le vice-premier ministre en charge de l'intérieur à Kinshasa-Gombe. Nous, cadres et agents de l'inspection générale de la territoriale du Kwilu, venons auprès de votre excellence exprimer notre désolation au sujet des faits ci-après. Primo, l'injustice créée de la part de l'inspecteur général de la territoriale, chef de corps, en rapport avec le traitement des agents relatif au paiement de la prime qui est un droit pour un agent de carrière des services publics de l'État. Secondo, il s'observe maintenant que les listings que nous avons en mai du 3e et 4e trimestre 2021 ne reprennent aucun agent permanent de l'IGTR Kwilu. Tertio, la non-prise en compte des listes de cadres et agents permanents envoyés par l'inspecteur provincial pour bénéficier de la prime. Il résume ce qui précède que la situation de la paye des primes des cadres et agents de l'inspection générale de la territoriale du Kwilu nécessite votre implication urgente. Nous proposons qu'une commission mixte soit mise sur pied pour confirmer la véracité des faits décrits si haut qui sont à la base de notre démotivation.
Dans l'actualité, il y a également la grogne à l'Agence congolaise de grands travaux ici à Kinshasa. La délégation syndicale accuse le directeur général de rétrograder certains agents, les traitant d'incompétents. Rachel Bouhanda, conseillère syndicale, dénonce la mégestion de la CGT depuis près d'une décennie. Elle ajoute que la majorité des travailleurs sont issus de la tribu du DG Charles Médard Ilunga. On l'écoute.
Le DG Médard Ilunga, il a dégradé les agents depuis 2016. En 2018, on l'a fait une lettre par l'inspection du travail, comme il a dégradé les agents sans consulter les syndicalistes. Deux ans après, il a divisé les salaires des agents presque en trois. Il y a des agents qui sont allés à la banque la semaine passée qui ont vu leur salaire divisé pratiquement en trois. Il prétend que ces agents n'en sont incompétents, tandis que ces agents-là ont piloté quand même des projets aux grands travaux, comme l'hôpital du Saint-Catherine, le Grand Katanga, Zolana, beaucoup de projets, ils ont piloté. Mais par rapport à quoi, lui, il qualifie ces agents de incompétents. Il y a la mégestion qui est là financière, il y a les détournements, il y a des documents qui prouvent des détournements de grosses sommes, tandis que nous, les agents, il y a des mois où on n'est pas payé le complément salaire que lui, il avait changé en prime.
En réaction à cette préoccupation, le directeur général rejette en bloc ces accusations. Charles Médard Ilunga affirme avoir entrepris des réformes vu le nombre élevé des agents dans cette entreprise à caractère technique pour répondre à la mission lui assignée. On l'écoute.
Nous sommes, nous, à CGT, guidés par plusieurs plans stratégiques de développement. Vous savez, nous sommes un grand bureau d'ingénierie. Nous avons besoin de les devenir encore pour internationaliser nos prestations. Ça veut dire que nous mettons un accent sur le développement des compétences. Nous voulons que, à travers notre façon de travailler, nous puissions être très rigoureux et être crédibles. C'est cela. Voilà pourquoi, dans les objectifs que nous avons pris, nous nous sommes dit qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'agents administratifs dans une entreprise à caractère technique, il faut tout faire pour former davantage les agents, pour les convertir et vers les missions de l'entreprise. Et c'est ça que nous faisons. Et nous avons commencé d'abord par identifier les emplois, les vrais emplois d'un bureau d'ingénierie qui est la CGT. Et c'est comme ça que, à la suite de cette identification des emplois, nous avons procédé à la mise en place en 2016. Cette mise en place a été notifiée aux agents. Cette mise en place a été acceptée par notre tutelle.
Un dossier signé Blaise Chindani Kambala. Autre nouvelle sur Radio Okapi, le gouverneur intérimaire de la Tchopo a inauguré hier à Kisangani l'entrepôt moderne de stockage de vaccins et d'autres produits du ministère de la Santé publique. Ce projet du gouvernement central mis en œuvre par l'UNICEF a coûté à l'Agence mondiale pour la vaccination plus de 4 millions de dollars américains. À Kisangani, c'est une correspondance de Jacques Mokonkole.
Ce bâtiment est érigé à 20 mètres de l'aéroport international de Bamboka sur une superficie d'un hectare. Il est entièrement équipé de mobilier et comprend trois parties essentielles, à savoir une zone froide avec quatre chambres froides d'une capacité totale de plus de 500 mètres cubes, une zone pour le stockage des intrants secs d'une capacité de 7200 mètres cubes et d'un bâtiment administratif. Le représentant de l'UNICEF en RDC, Edouard Begbeder, en donne son importance.
Cet entrepôt déconcentré de Kisangani renforcera la chaîne de froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins de qualité aux familles, aux femmes enceintes et aux jeunes enfants.
En recevant les clés des mains du représentant de l'UNICEF en RDC, le gouverneur de province ad intérim Maurice Abibou Sakapela a promis de sécuriser ce bâtiment et de le faire gérer rationnellement.
Je vous garantis de sécuriser cet édifice et d'être toujours disponible pour toutes vos sollicitations pour la bonne marche de notre dépôt déconcentré.
Signalons que ce dépôt est construit dans le cadre de la réorganisation et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement en vaccin pour l'est du pays. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis le nombre de personnes souffrant de diabète augmente chaque année dans la province du Sud Kivu. Ces malades sont priés de se faire vacciner contre le coronavirus. Appel lancé dimanche dernier par le coordonnateur du programme de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles lors d'une campagne de sensibilisation de la Journée mondiale du diabète. Reportage à Bukavu de Cynthia Bachizina Bizana.
Prévenir plutôt que guérir, c'est la stratégie adoptée par les autorités sanitaires provinciales. Primo, insister sur les dépistages volontaires au diabète. Ensuite, vacciner les diabétiques contre la COVID-19. Docteur Landry Mugisho.
Nous sommes déjà à 6854 cas rapportés entre janvier et juin 2021. Nous sommes en train vraiment de sensibiliser les gens à se faire dépister d'abord au diabète, après qu'ils aient connu leur état par rapport à la glycémie. Et on leur demande d'aller se faire vacciner contre le COVID parce que, tel que les statistiques le démontrent chez nous, à 80% les personnes qui sont décédées de COVID, il y avait les diabétiques et les hypertendus.
Le diabète est une élévation permanente du taux de sucre dans le sang. L'insuline permet de baisser cela. Mais ce médicament est hors de prix pour beaucoup de malades. Marie Migani, coordonnatrice de l'ONG CAPSA, veut un coup de pouce des autorités budgétaires provinciales.
C'est déjà 100 ans de découverte de l'insuline, mais il y a d'autres malades qui n'ont pas accès à cette insuline. L'action que nous demandons aujourd'hui au niveau des législateurs, donc nos députés, qu'ils doivent élaborer des édits qui tiennent compte des maladies non transmissibles, notamment les diabètes et l'hypertension.
Cynthia Vachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Ouganda, au moins 24 personnes ont été grièvement blessées dans deux explosions qui ont secoué ce matin la ville de Kampala. Le porte-parole du ministère de la Santé publique, Emmanuel Aimbiona, affirme qu'au moins 24 blessés ont été transportés immédiatement à l'hôpital et que 4 sont dans un état critique. Des témoins cités par l'agence Associated Press affirment qu'une explosion est survenue ce matin près d'un poste de police et une autre à proximité du Parlement. La police soupçonne des rebelles ougandais de l'EDF d'être à l'origine de ce double attentat. L'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, a annoncé ce mardi après-midi qu'il était candidat à l'élection présidentielle prévue le 24 décembre prochain. C'est de Benghazi, son fief, qu'il a annoncé son entrée dans la course à la présidentielle. Non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour éventuellement conduire le peuple vers la gloire, le progrès et la prospérité, a-t-il ajouté. Tension en ce moment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, face à une situation humanitaire qui se dégrade chaque jour, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui est accusé d'orchestrer chaque jour cette crise, joue désormais la carte de l'apaisement.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile de la région de Beni au Nord Kivu. Jean-Paul Kapitula affirme que des déplacés venus de l'Ituri affluent depuis la semaine dernière à Beni. Ils fuient l'insécurité dans leur milieu. Cette situation pose le problème de prise en charge. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Paul Kapitula, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Depuis la semaine passée, déjà, on commence à voir les déplacements de la population de la province de l'Ituri à la limite vers Luna, Sir Eringeti. Il y a aussi le déplacement de Boulongo vers Beni, la partie ouest vers Beni. La protection civile, quel état des lieux dressez-vous de ces déplacements?
De ces déplacements, actuellement, nous sommes en train de penser convoquer une réunion avec toutes les autorités de base sous la houlette du maire, pour que nous puissions comprendre la situation globale et générale de ces populations qui se déplacent de l'intérieur du territoire de Beni vers la ville de Beni. Et donc, ça préoccupe. Et vous savez que c'est devenu un déplacement qui est élément permanent et que donc, il y a vraiment à quoi de penser que actuellement les familles d'accueil sont submergées avec cette situation. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que cela arrive pendant que la ville est sous une épidémie à Ebola. Cela ne va pas permettre que le travail soit bien fait, malheureusement. Et donc, nous rapprocher aux autorités de base et discuter avec tous les volontaires et les comités de déplacés pour essayer d'évaluer très rapidement, à terme de chiffres, l'augmentation de ces personnes déplacées dans la ville de Beni est une question urgente. Et cela, on y pense, avant la fin de cette semaine, nous aurons déjà mis à pied quelque chose pour que la semaine prochaine, nous puissions avoir vraiment une idée claire sur ce tableau.
Et donc, vous voulez dire que jusque-là, il n'y a aucune idée claire par rapport à ce chiffre et leur positionnement?
Exactement, il n'y a pas une idée claire pour le moment, parce que vous savez, je vous dis, cela est arrivé pendant que nous sommes sous le choc de l'épidémie. Donc, toute notre attention, comme les volontaires de la protection civile, par exemple, qui nous aident dans ce travail, les autorités de base, ils sont beaucoup plus focalisés sur comment appuyer le secteur de la santé, qui est aussi un problème avec cette épidémie Ebola. C'est vrai, il y a des déplacés, mais ils sont combien, ils sont où? Là, c'est une question maintenant à savoir demain.
Monsieur le coordonnateur, en écoutant les délégués du gouverneur dans la région d'Eringeti, la population déplacée vit dans des situations catastrophiques, dans des églises, dans des écoles. Vous pensez, en amont, qu'est-ce qu'il a fallu faire?
Ce qu'il a fallu faire, c'est d'identifier ces personnes. Ils sont combien? On ne peut pas profiler une assistance ou un plaidoyer sans avoir les chiffres. C'est ça, c'est un problème. Et les démarches que je dois lui conseiller, c'est de se rapprocher vers les humanitaires avec des chiffres clairs pour dire, voilà, au Tchad par exemple, nous avons autant de déplacés qui sont dans des écoles et que nous sollicitons qu'il y ait une mobilisation humanitaire. Je crois que il y a des humanités capables à le faire. Ou il approche, par exemple, une agence comme PAM, comme ACER, ceux qui interviennent directement. Mais il faut aussi savoir que là, nous allons aussi supplier les autorités militaires. On ne peut pas faire une intervention dans une zone insécurisée. Parce qu'il ne faut pas que l'assistance insécurise davantage les personnes bénéficiaires. et que s'il n'y a pas un rétablissement rapide de la sécurité dans la zone de Ringeti, où tantôt ça a été Luna, mais il y a aussi Kasana qui a été attaqué. Donc là, ce n'est pas facile qu'il y ait d'intervention dans cette zone, parce que les humanitaires vont passer par où? Et ces personnes qui vont être bénéficiaires, ne seront-elles pas une cible de l'ennemi pour chercher à se ravitailler à manger, par exemple? Et donc, il faudra aussi que les autorités militaires réfléchissent beaucoup plus davantage. Comment rétablir la sécurité, ne fût-ce que dans les zones qui sembleraient être les zones qui hébergent actuellement les populations. Et que si, là où les populations se sont regroupées, les forces armées, la police mettent beaucoup l'accent sur la sécurisation de ces personnes qui fuient, c'est encore un atout pour permettre à ce qu'une assistance soit profilée.
Jean-Paul Capitola, nous vous disons merci.
C'est moi qui remercie la Radio Okapi.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de la protection civile de la région de Beni au Nord Kivu. Jean-Paul Capitola était interviewé à Beni par Marc Marofimo. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Infiniment merci à Élisée Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Erung Mouchige. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.